Alors, il nous reste trois rencontres d'ici la fin de ce parcours. Nous allons aujourd'hui entreprendre et terminer le commentaire du paragraphe 260 sur les deux types de morale. Et pour les deux dernières séances, alors je vous proposerai le programme suivant. Nous regarderons le tout dernier aphorisme de ce Par de la bien le mal, le 295, sur Dionysos, ce qui nous permettra de dire quelques mots sur cet étrange personnage qu'est Dionysos et sur le divin, de manière plus générale, chez Nietzsche. Mais je voudrais aussi, sans doute dans la dernière séance, dire tout de même un mot sur la doctrine de l'éternel retour, parce qu'il est quand même difficile de faire une présentation de Nietzsche sans évoquer ce thème majeur. Nous l'avons déjà rencontré plus ou moins, mais enfin je pense qu'il est bon d'y revenir. Alors, la difficulté vient de ce que dans le livre que nous commentons, c'est-à-dire Par de la bien et le mal, l'éternel retour n'arrive que de manière très mystérieuse dans le paragraphe 56, sous le nom de Circulus Viciosus Deus. Bon, on pourrait y revenir, mais je vous propose de regarder quand même, et je m'appuierai sur d'autres textes, en particulier dans le Gai Savoir, le paragraphe 341, qui est la version sombre, écrasante de l'éternel retour, et puis surtout de regarder, si vous avez l'occasion de le faire, ainsi par les Zarathoustra, dans la troisième partie, au moins deux champs, de la vision et de l'énigme. Il y a de très belles choses sur l'instant. Et puis surtout le grand chant, les sept sceaux, ou le chant du oui et de l'amen, avec le fameux thème « Oui, je t'aime, ô éternité, tu es la femme dont je voudrais avoir des enfants ». Donc nous regardons ces choses. Si vous avez aussi l'occasion, vous pouvez regarder dans mon petit livre « Nietzsche, l'intempestif ». J'ai consacré un bref chapitre de commentaires à ces textes qui peuvent donner une idée de l'ensemble, parce que une des idées à laquelle je tiens, c'est que je crois qu'il y a en effet plusieurs versions et pas une seule de l'éternel retour, et qui donc, pour comprendre cette théorie très difficile, voir la suite des choses. Voilà, et dans la dernière séance, donc le 18 décembre, nous pourrions consacrer quand même pas mal de temps à une discussion sur l'ensemble. Alors je vous signale dès aujourd'hui, parce qu'il serait bien de préparer vos questions. Et si possible, peut-être de les préparer par écrit, ce qui vous oblige vous-même à préciser vos questions, et ce qui me permet à moi, si je les reçois un peu avant, de préparer des réponses et d'aller voir éventuellement quelques textes qui seraient éclairants. Donc si vous pouvez faire ça dès la semaine prochaine, ou me les faire parvenir après, ce serait très bien. Mais enfin, je le rappellerai la prochaine fois. Donc la prochaine fois, nous aurions ce 295, et puis un peu le thème de Dionysos et du divin, et dans la dernière séance, l'éternel retour du même. Ce ne sont pas des thèmes tellement faciles à aborder. Voilà, alors avant d'en venir au paragraphe 260, sur les deux types de morale, nous finissons la lecture de ce paragraphe, en effet, à première vue troublant, et même peut-être à seconde vue, qui est l'aphorisme 259. Alors, nous avions commencé à regarder le début, qui nous indique que ce qui vaut pour l'individu, à savoir une morale, disons en gros, de non-violence, du respect de l'autre, de considération pour ce qu'il est, est une très belle morale. Mais si l'on regarde ce qu'il appelle le « Urfaktum der Geschichte », le facteur historique, le fait historique fondamental de toute société, eh bien, on est obligé de reconnaître que aucune vie ne se développe sans exploitation, sans tyrannie, etc. Et donc, il ne faut pas mélanger les domaines, car si on le fait, eh bien, on aboutit à la destruction même de la société. Donc, c'est un peu aussi le fil rouge de l'analyse nietzschéenne de la modernité, qui précisément ne veut pas regarder en face cette idée d'exploitation. Alors, je reviens quand même un peu sur ce thème dans la deuxième partie de ce paragraphe 259, qui est en effet troublant, et je vais revenir sur ce trouble. Alors, je relis le passage. « Il faut penser en allant jusqu'au fond des choses ». Donc, nous savons, le fond des choses, pour Nietzsche, n'est jamais n'est jamais drôle. C'est toujours un fond tragique, tumultueux. Ce n'est pas l'apparence tranquille de l'illusion. Donc quand on va au fond des choses, on voit des choses crues et des choses même violentes, dit-il. Alors il faut penser en allant jusqu'au fond des choses et se défendre de toute faiblesse sentimentale. Alors, petit problème de traduction, « leben », on traduit ici dans ma traduction à moi par le verbe « vivre », mais « leben » peut vouloir dire « la vie ». Et de même la suite, « vivre », c'est essentiellement « dépouiller, blesser ». En allemand, ce sont des noms propres, ce sont des noms. « Anneigung »,« Verletzung », etc. Donc, la vie est dépouillement, blessure, domination. Et ce petit correctif n'est, je crois, pas sans importance, parce que le verbe vous incite à l'action. À l'air de dire, si vous voulez vivre, il faut évidemment exploiter. Or, c'est la vie comme telle, n'est-ce pas, que nous avons à regarder en face, sans sentimentalisme. Elle est donc domination de ce qui est étranger et plus faible, oppression, imposition, dure de sa forme, englobement et, au mieux, exploitation. Mais pourquoi employer toujours ces mots qui exprimèrent de tout temps une intention de calomnier? Donc il faut éviter le discours moral, finalement. Tout corps au sein duquel, comme nous l'avons admis, les individus se traitent en égaux, donc à l'intérieur d'un corps donné, d'une société donnée, les individus se considèrent évidemment en égaux. Tout corps au sein duquel, comme nous l'avons admis, les individus se traitent en égaux, et il en va ainsi dans toute aristocratie saine, est aussi obligé, s'il est vivant et non pas moribond, de faire contre les autres corps tout ce dont les individus qui le composent s'abstiennent dans leurs relations réciproques. Il devra être une volonté de puissance. Wille zur Macht, expression qui souvent caractérise la pensée nietzschéenne, qui revient dans les textes très rarement. Ce paragraphe se caractérise par le fait que nous trouvons là trois retours de cette expression de volonté de puissance. Donc il faut y être d'autant plus attentif. Il devrait être une volonté de puissance incarnée, il voudra croître, s'étendre, apparaît dominé, non pas par moralité ou immoralité, mais parce qu'il vit et que la vie est volonté de puissance. Bon, alors, et puis le troisième petit paragraphe, c'est que, évidemment, l'Européen moderne, c'est-à-dire le démocrate, n'aime pas entendre ça. Alors, je reviens d'un mot sur ce petit paragraphe, en effet, sur ce petit passage redoutable. La condition, donc, il ne s'agit pas de porter un jugement moral, dépréciateur ou appréciateur. Il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est mal. Il faut se défaire et du sentiment et de la morale pour regarder le fait que la vie se développe toujours au détriment d'eux. La vie se fait toujours au détriment d'eux. Elle se fait toujours dans ce qu'il appelle justement l'exploitation. Nous ne nous nourrissons que en cultivant la nature, c'est-à-dire en l'exploitant. Même si on prend beaucoup d'égards, eh bien, on coupe des arbres, on pêche des poissons, on dénature la nature, qu'on le veuille ou non. Et il en est, aux yeux de Nietzsche, toujours ainsi. Le travail a ce côté d'exploitation de la nature et, d'une certaine façon, des autres. Nous sommes toujours dans la dépendance des autres. Et qu'on le veuille ou non, nous les exploitons au sens le plus banal du terme, c'est-à-dire que nous nous en servons. C'est la condition de l'affirmation de soi. Ce n'est pas d'abord une volonté d'exploiter les autres. Nous ne voulons pas détruire la nature, nous ne voulons pas, quand nous allons demander un service à quelqu'un, un commerçant, nous ne voulons pas l'exploiter. Mais nous ne pourrons pas faire autrement que de lui demander des choses qui seront éventuellement coûteuses. Alors, on pourrait se référer au paragraphe 230, où Nietzsche explique au fond que la vie de l'esprit est semblable à un estomac. C'est un paragraphe un peu long, mais je prends simplement à peu près au premier tiers. Peut-être ne saisira-t-on pas sans explication ce que je viens de dire de la volonté foncière de l'esprit. Bon, quelle est la volonté foncière de l'esprit? Je résume, c'est que l'esprit veut s'approprier ce qu'il ne possède pas. Au fond, quand nous cherchons à connaître dans une science donnée, nous essayons de ramener à nous l'inconnu, c'est-à-dire de supprimer l'inconnu pour en faire quelque chose de connu, quelque chose de familier. l'esprit ne peut pas faire autrement que de s'approprier les choses, donc de les dominer. Bon, cette intention, donc c'est le sentiment de croissance, d'une force démultipliée, son dessein, dit-il, est de s'incorporer de nouvelles expériences, de ranger le nouveau dans le cadre du connu, précisément d'avoir le sentiment d'une croissance. Donc quand on apprend une science nouvelle, on est heureux, on a le sentiment de s'accroître. Mais ce que l'on fait, c'est en réalité une appropriation. Cette intention se trouve servie par un instinct en apparence contraire. L'esprit se résout brusquement à l'ignorance, il se ferme arbitrairement, il bouche ses fenêtres, il repousse telle ou telle chose. Toute chose nécessaire, donc à la fois l'esprit capte et l'esprit se ferme. On retrouve toujours les deux tendances que nous avons déjà rencontrées, qu'on avait trouvées dans la volonté de croyance. C'est-à-dire qu'à la fois, il veut dominer et en même temps, il se rétracte dans la peur, dans la défense de lui-même. « Toute chose nécessaire, dit-il, selon le degré de sa force d'assimilation, de son pouvoir de digestion, entre guillemets, pour reprendre une image, car en vérité, c'est encore à l'estomac que l'esprit s'apparente le plus. » L'esprit, entre guillemets. Voilà encore une comparaison ironique à la Nietzsche. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? Au fond, c'est un estomac. C'est-à-dire qu'il a besoin de digérer, mais en même temps, il y a un moment où il faut qu'il s'arrête de digérer, parce que sinon, il va étouffer ou éclater sous le... Voilà, donc c'est les deux mouvements, à la fois de captation, et quand l'estomac digère, il s'assimile, donc il détruit la chose, il exploite la chose qu'il mange, et en même temps, il doit, à un certain moment, s'arrêter. Alors, je crois que c'est cela l'idée de la volonté de puissance, formule qui, arrachée de tout contexte, devient stupide. La volonté de puissance, c'est la condition de l'affirmation de soi. Ce n'est pas d'abord l'exploitation d'autrui. Quand je cherche à connaître, je ne peux pas ne pas assimiler des choses, donc d'une certaine façon me les approprier et d'une certaine façon les détruire. Je ne cherche pas à les détruire. Et je crois que le contresens consiste à croire que la volonté de puissance s'exerce sur les autres. C'est pas quand on entend volonté de puissance, on voit tout de suite le CRS, SS, l'exploitateur des pauvres, le tyran qui essaie de dominer les autres. Mais la volonté de puissance, c'est d'abord cette aptitude qu'a l'individu à se dominer lui-même, et donc à dominer ce qui va l'enrichir. Et nous allons retrouver d'ailleurs cette idée dans la morale noble. Le noble n'a que faire de dominer autrui. C'est le faible qui, par faiblesse, veut dominer. Il a besoin de l'autre pour se comprendre lui-même. Le véritable distingué, l'aristocrate, n'a pas besoin d'autrui pour s'affirmer. Nous verrons ça dans quelques minutes. Donc je crois qu'il est très important de nous apercevoir que la volonté de puissance est d'abord une puissance exercée dans l'affirmation de soi, mais évidemment cette affirmation, je viens de le dire, ne va pas sans ce que Nietzsche appelle d'une formule évidemment brutale, l'exploitation, c'est-à-dire la mise sur un certain nombre de la mainmise sur un certain nombre d'éléments. Enfin, on peut penser donc à l'estomac assimilateur, réducteur de l'autre au même. Et il n'y a pas d'affirmation de soi sans cela. Alors, le dernier paragraphe souligne à nouveau la répugnance de l'Européen devant ce propos. Et il est clair que Nietzsche joue sur l'excès. Il n'est pas de domaine où la conscience de l'Européen ordinaire répugne davantage à se laisser instruire. Donc, ce qu'il accuse ici, c'est l'idéalisme. Ou le rationalisme, on invoquera la science, n'est-ce pas? De nos jours, on s'exalte partout, fût-ce en invoquant la science, sur l'état futur de la société, où l'exploitation n'existera plus. Donc, grand discours des socialismes que Nietzsche a pu au moins connaître de loin, cette idée qu'un jour, effectivement, grâce au progrès des connaissances, eh bien, d'une certaine façon, cette espèce de nécessité vitale aura disparu au profit de l'égalité. Alors évidemment, de cela, Nietzsche n'en croit pas un mot, et comme toujours, il dénonce le danger de cet idéalisme. Ça n'est pas clair dans ce texte, mais je crois que c'est tout de même bien ce qu'il pense. Le danger, c'est de croire qu'on pourrait mettre fin à l'exploitation de l'homme par l'homme, ou tout simplement de mettre fin à la vie. C'est un acte proprement mortel. Et pourquoi ? Et parce que mettre fin à l'exploitation va nécessairement passer par des moyens violents. N'est-ce pas ? Essayer d'éradiquer toutes les différences, de supprimer les aliénations, va supposer une domination encore plus forte. Et nous l'avons bien vu dans les régimes totalitaires qui, sous prétexte de faire advenir la société sans classe, eh bien, non seulement font tomber des têtes, mais mettent en place un système d'exploitation absolument mortifère, parce qu'il y a toujours une exploitation qui va ressurgir. Et l'exploitation du régime totalitaire en est le meilleur exemple. C'est-à-dire celui-là même qui veut supprimer l'exploitation se trouve pris dans un cercle vicieux et dramatique d'exploitation. Alors je crois que c'est ce que Nietzsche veut dire, c'est-à-dire que le règne de la justice ne passe pas par l'idéal d'une suppression des injustices. Il y aura toujours des injustices, comme il y aura toujours des exploitations. Simplement, évidemment, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est une morale de la résignation, ainsi, qui nous est proposée ? Alors, c'est là que, je crois, il est bon quand même de souligner, sans doute, l'ambiguïté de cette position. Je crois qu'on peut la défendre en voyant bien qu'il ne s'agit pas, pour Nietzsche, de dire « rien de tel n'existe comme la morale des nobles ». Comme la morale de la noblesse, comme la morale du respect de l'autre. Et si on oublie ce point, alors on le met dans une contradiction absolument totale, puisque tout ce qu'il va nous dire dans le paragraphe suivant serait nul et non avenu. Donc il ne s'agit pas de réduire, il ne s'agit pas d'annihiler la morale, il s'agit de rentrer dans une perspective morale telle qu'on soit capable de dominer relativement cette violence, de la canaliser. Alors, ce qu'on va voir, c'est que le faible est justement celui qui se laisse dominer par sa propre violence, qui est incapable de la maîtriser, et qu'il y a de la noblesse, il y a de la majesté à être capable de canaliser ses propres pulsions dans un sens positif. Dans un sens positif. Nous reviendrons là-dessus. Donc, je ne crois pas qu'il s'agisse de dire, désormais, la véritable morale, c'est celle qui... On fait baver au prochain, l'exploite, le tyrannise, etc. Ceci posé, il est clair qu'il y a, malgré tout, dans un certain nombre de textes de Nietzsche, une ambiguïté. Alors, je pourrais citer, mais je ne vais pas, comme le temps passe, je vous renvoie simplement à Le Voyageur et son ombre, c'est le deuxième tome de Humain trop humain, le paragraphe 189, L'arbre de l'humanité et la raison. Mais nous allons en trouver un qui n'est pas moins équivoque, tout à fait proche d'une autre, dans « Par-delà le bien et le mal », le paragraphe de 158. Le paragraphe de 158. Si l'on considère... Bon, je prends le milieu du paragraphe. Hein. Une aristocratie saine ne doit pas se sentir une fonction... soit de la monarchie, soit de la collectivité, mais voir en l'une et l'autre son sens et sa plus haute justification. Donc l'aristocratie, disons, il s'agit de l'aristocratie ici, l'Ancien Régime, puisqu'il vient de parler juste avant de la France, ne doit pas se considérer simplement comme utile ou nécessaire à la monarchie, mais elle doit considérer comme, quelque chose, comme ça, une fonction de noblesse et de grandeur d'être ce qu'elle est. Et donc d'être éventuellement au service de la monarchie. Mais elle se comprend autrement comme une domestique de la monarchie. Elle se comprend comme un élément nécessaire et fondateur de la monarchie, donc essentiel à cette monarchie. Bon, donc elle devra prendre... C'est pourquoi elle devra prendre sur elle de sacrifier, alors voilà le problème, sans mauvaise conscience, une foule d'êtres humains qu'elle réduira et rabaissera dans son intérêt à l'état d'homme diminué, d'esclave, d'instrument. Sa croyance fondamentale doit être que la société n'a pas le droit d'exister pour elle-même, mais qu'elle ne doit être que le soubassement et la charpente qui permettront à une élite de se hausser à ses devoirs supérieurs, à la réalisation d'un être plus élevé, semblable à cela ces plantes grimpantes de Java qui tendent vers un chêne leurs bras avides de soleil et l'enlacent si fort et si longtemps qu'enfin elles se dressent au-dessus de l'arbre, mais en s'appuyant sur lui, exhaussant leur cime avec bonheur pour l'éployer à la lumière. Alors on trouverait ici beaucoup de textes posthumes sur lesquels un certain nombre de commentateurs s'appuient, dans lesquels en effet Nietzsche admet qu'une société ne peut pas ne pas connaître une classe sociale dominante qui trouvera d'une certaine façon sa justification à tenir en sous-main, et il emploie même le mot d'ici d'esclavage, pour s'assurer d'elle-même. Alors on voit bien le problème, c'est quand cette idée que nous avons vue dans le paragraphe 259 devient instrumentalisée, c'est-à-dire que ça devient un instrument pour une catégorie sociale de se justifier elle-même, de se poser en exploitant les autres. Ceci dit, et malgré toutes les réticences qu'on peut avoir, c'est-à-dire à partir du moment où ça deviendrait une politique consciente et lucide où certains se voudraient exploiteurs des autres, c'est évidemment tout à fait problématique, mais ceci posé, si nous regardons de près même nos sociétés démocratiques avec en tête ce petit paragraphe, nous pouvons demander si nos sociétés ne connaissent pas aussi, pour qu'une élite surgisse, ne connaissent pas aussi des esclaves qui n'ont pas droit à la parole. Et si l'on regarde de près, on s'apercevra que notre élite intellectuelle, financière, etc., a besoin, elle ne le veut pas, mais de fait, nous avons des sociétés qui continuent, évidemment sans le mot, puisque le mot est banni, l'esclavage, par un certain type de travail, par la prostitution, par des pauvres gens qui sont mis au banc de la société parce qu'ils ne peuvent pas trouver à s'insérer dans cette société. Et d'une certaine façon, la société ne fonctionne que grâce à ce volant d'esclavage. Bon, ça n'est pas une justification, mais je crois que Nietzsche peut nous dire, écoutez, regardez un peu près les choses, et peut-être qu'au lieu de vous indigner, vous serez devant une réalité cruelle, qu'il ne s'agit pas à nouveau de justifier, encore moins de vouloir créer dans une grande politique, mais qui est quand même là. Alors qu'est-ce qu'on fait là-devant? Voilà, mais que la position nietzschéenne là-dessus soit sur le fil de crête, ça c'est, je crois, assez clair. Voilà, est-ce que sur ces points, avant qu'on passe au 260 et sur ce qu'on a dit la dernière fois, vous auriez des interrogations?
Est-ce que Nietzsche avait une connaissance de la philosophie médiévale relativement au fondement de la morale, au fondement naturel de la morale? Est-ce qu'il était hostile ou est-ce qu'il n'avait pas...
Non, franchement, je crois qu'il ne connaissait pas beaucoup le Moyen-Âge. Il connaissait les Grecs, oui, l'esclavage, tout ça, il connaissait Aristote. Et d'Aristote, il a repris l'idée que il y a des gens qui acceptent de ne pas être maîtres, de ne pas être nobles, qui acceptent leur esclavage, qui même d'une certaine façon le veulent. C'est plutôt les Grecs, je pense, qui sont derrière, enfin, un certain type de Grèce qui est derrière ce discours. Je crois qu'il ne connaît pas bien le Moyen-Âge, non. Non, non, c'est un philologue grec, hein, c'est un homme qui a vécu avec les tragiques grecs, avec Platon surtout, Aristote sans doute moins, les stoïciens. Mais surtout les tragiques, parce que si vous pensez aux tragiques, Eschyle, c'est... La vie est exploitation, hein. La vie est cruelle, la vie est brutale, il faut se défendre, il faut se venger, on peut pas y échapper, c'est le destin. C'est pas que vous voulez, Oedipe couche avec son père, avec sa mère et tue son père, c'est pas qu'il veut les tuer, mais il peut pas faire autrement. Je crois qu'il y a un peu de ça derrière ce discours qui nous paraît étrange, parce que nous sommes des démocrates. Et des chrétiens, c'est-à-dire que pour Nietzsche, bien sûr, l'Européen moderne ne peut pas supporter cette idée parce que... Alors, passons au 260, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez bien, on arrêtera un peu avant, vers 7h-20, moins quart. On fera peut-être pas de pause ou une toute petite pause sur place pour ne pas vous frustrer. Si vous n'êtes pas trop fatigué. Voilà, alors on passe au 260, qui est un texte tout à fait remarquable, est tout à fait central, qui est très long. Alors, on ne va pas le lire en entier. Ce paragraphe 260, j'espère que vous l'avez regardé, il propose une répartition typologique des morales régnantes, des morales qui ont régné ou qui règnent encore. Donc, je dirais d'abord que ce texte nous propose une lecture classificatrice, une classification, un schématisme de ce que Nietzsche croit avoir lu. Comme toujours, il en dit un peu plus qu'il en a fait, mais enfin bon, croit avoir lu dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Dans ce texte, par conséquent, Nietzsche ne propose pas une morale, il ne propose d'ailleurs pas de morale, mais il essaie de synthétiser en classifiant les deux grandes catégories de morale qu'il a vues. Donc il n'édifie pas de nouvelles, ne propose pas de nouvelles valeurs, il essaie de classer en deux grands groupes ce qu'il a rencontré. Alors, deuxième petite remarque, cette classification est nécessairement formelle. Elle propose deux pôles contradictoires, mais elle explique bien qu'entre ces deux pôles opposés, donc on pourrait dire à la Weber deux idéotypes, entre ces deux pôles se déploie toute une gamme de nuances. Et il est très important de noter ce point, tout un tas de nuances. La deuxième phrase que je vais lire dans un instant rappelle que ces deux types existent quelquefois dans le même individu, c'est-à-dire dans la même, ce qu'il appelle dans la même âme. Je vais souligner tout à l'heure en lisant ce texte. Donc c'est la deuxième remarque, c'est que entre ces deux pôles extrêmes, il y a toute une nuance d'attitude et que ces nuances se retrouvent dans le même individu. Donc il n'y a pas d'un côté des gens qui ne seraient que des nobles et d'autres qui ne seraient que des esclaves. En toute âme, il y a de la noblesse et de la servitude, mais avec des différences de degré, donc avec du plus ou du moins. Alors là, troisième petite remarque, la classification procède en regroupant des traits réguliers, et donc Nietzsche met en avant quelques traits caractéristiques de chacune de ces morales. Que très caractéristiques qu'on peut plus ou moins retrouver dans la bigarrure de la réalité, des réalités historiques. Alors, enfin, dernière remarque, ce texte est évidemment habité par cette double distinction très forte entre la morale des maîtres et la morale des esclaves. Morale des maîtres et morale des esclaves, que Nietzsche appelle d'ailleurs de noms divers, sur lesquels je reviendrai. Mais enfin, en gros, c'est morale des maîtres et morale des esclaves qui découpent les morales, mais à nouveau, cette distinction n'est pas à interpréter de manière moralisatrice. Il ne s'agit pas d'abord d'un jugement moral, comme si le mal était d'un côté, d'ailleurs nous allons le voir en lisant le texte, et le bien nécessairement de l'autre. Chaque morale, celle des maîtres comme celle des esclaves, développe son propre critère de distinction, mais on pourrait dire que ces morales sont par-delà ces distinctions. C'est une distinction, au fond, de type anthropologique, ou comme Nietzsche dit quelquefois, de type psychologique, on prend le mot psychologique au sens le plus large du terme. Alors, je lis ce qui me paraît être une introduction. En parcourant les nombreuses morales raffinées ou grossières qui ont régné ou règnent encore sur la terre, j'ai vu que certains traits, tugue, revenaient régulièrement ensemble et se liaient les uns aux autres, de sorte qu'à la fin, deux types fondamentaux se révélèrent à mes yeux et que je découvris une différence fondamentale. Donc, il recueille un certain nombre de données historiques qui prétendent nombreuses. Ça, c'est toujours son idée qu'il faudrait faire un immense travail de repérage des diverses morales et qu'on en tirerait beaucoup de bénéfices. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait fait, mais enfin, bon. C'est donc la conclusion de cette enquête, prétendument complète et historique, qu'il nous donne ici. Donc, qu'est-ce qu'il découvre? Il y a une morale des maîtres, Herren morale, et une morale des esclaves, Sklaven morale. J'ajoute tout de suite que toutes les civilisations supérieures et composites ont tenté de concilier ces deux morales. Donc elles n'ont jamais été vécues à l'état pur. Elles ont toujours été mixtes, un mélange de plus ou de moins, de mélange des deux. Donc toutes les civilisations supérieures et composites ont tenté de concilier ces deux pôles, que plus souvent encore, elles se mélangent sans s'accorder, qu'elles coexistent même quelquefois à l'intérieur d'un même individu et d'une même âme. Voilà, remarque également fondamentale, hein, c'est-à-dire que tout individu et toute âme connaît quelque chose de cette distinction. Donc il n'y a pas d'un côté des esclaves qui ne seraient qu'esclaves et des maîtres qui ne seraient que maîtres. Ça, je crois que c'est une vue tout à fait profonde et à retenir. Hein. C'est-à-dire que chaque être humain est plus ou moins, et selon les temps, plus ou moins maître ou plus ou moins esclave. Ces critères moraux différents sont nés soit au sein d'une classe dominante consciente et satisfaite de ce qui la distinguait de la classe dominée, soit parmi les sujets, les esclaves et les subalternes de tout rang. Bon, disons, ça c'est l'introduction. Et nous abordons alors, au fond, la première partie de ce texte, la plus longue, dans le premier cas, c'est-à-dire dans le cas de la morale des maîtres, quand les maîtres déterminent la notion du bien. Alors, on a une très longue première partie qui va jusque à cette phrase. Il n'en va pas de même pour le second type, qui est donc un peu au-delà de la moitié du texte, dans le deuxième tiers, disons. Il n'en va pas de même pour le second type, la morale des esclaves. Et dans chacune de ces parties, Nietzsche développe des caractéristiques de ces morales. Alors, dans le cas de la morale des nobles, il distingue trois caractéristiques principales. Le noble, alors je crois qu'il faut faire des corrections à nouveau dans la traduction. Dans le premier cas, quand les maîtres déterminent la notion de bien, ce sont les états d'âme élevés et purs qui sont ressentis comme distinctifs et qui fondent la hiérarchie. Donc la première caractéristique, je vais y revenir, c'est que la morale de la noblesse se caractérise par la fixation souveraine du bien. Ceci, me semble-t-il, va jusqu'à ce passage, une lourde erreur lorsqu'il prête comme point de départ une question commune, pourquoi l'acte charitable doit-il être l'objet de louange ? Le type d'homme distingué, moi, ma traduction met l'humanité aristocratique, mais c'est le type d'homme distingué sans qu'il détermine les valeurs. Et il les détermine dans une création, elle est créatrice de valeurs, et une telle morale est créatrice de valeur par la glorification de soi. Deuxième caractéristique de cette morale. La troisième caractéristique, nous la trouvons à peu près vers le milieu de ce paragraphe, ce sont les forts qui savent vénérer. C'est là leur art, le domaine propre où ils se montrent inventifs. Donc, troisième caractéristique, c'est une morale de la vénération. Alors, je reviens sur chacun de ces points. C'est d'abord une morale de la fixation souveraine. C'est ensuite une morale de la glorification de soi. Et c'est une morale de la vénération. Alors, une morale de la distinction, alors c'est le mot « fornem », c'est le titre de ce chapitre qui est traduit dans la plupart des traductions par « qu'est-ce qui est aristocratique ?» C'est « vasis fornem ». Et « fornem » va dire ce qui est devant, ce qui est, moi je traduirais par « distinguer », la distinction. Donc, ce qui caractérise la morale de la distinction, c'est qu'elle est capable de mettre à l'écart, de séparer. Distinguer, c'est en effet mettre une distance entre une chose et une autre. Ceux qui, en principe, dominent, c'est-à-dire ceux qui sont déjà dans une société séparée, le font en déterminant le concept de bon. Le concept de bon découle de leur volonté souveraine de distinction. C'est un acte d'autorité, ce qui est reconnu et qui sera reconnu par tous. Alors, acte de souveraineté, est-ce à dire un caprice ? Je lis ce passage, si vous voulez, en le commentant un peu. Dans le premier cas, quand les maîtres déterminent la notion de bien, entre guillemets, ce sont les états d'âme élevés et purs qui sont ressentis comme distinctifs et qui fondent la hiérarchie. L'homme distingué écarte de lui les individus en qui s'exprime le contraire de ses sentiments de fierté, il les méprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce qu'il appelle l'homme distingué, il fixe les valeurs souverainement, mais à partir de ce qui en lui est le plus haut et le plus raffiné. Il le fixe à partir de ses états d'âme élevés, à partir de ce qu'il élève lui-même. Donc ce n'est pas le caprice, ce n'est pas l'arbitraire qui fixe les valeurs. Et il y a quelque chose, entre parenthèses, si ces passages vous effraient, d'assez qu'ancien. La morale, c'est ce qui nous élève au-dessus de nous-mêmes. Eh bien, c'est tout à fait ça. La morale aristocratique, c'est celle dans laquelle l'individu, c'est-à-dire l'homme distingué, est capable de se laisser mesurer par le plus haut en lui, par justement ce qui le distingue. La morale de la distinction pose comme base de la morale ce qui nous distingue, c'est-à-dire les états les plus hauts et les plus élevés. Il prend pour norme, par conséquent, le noble, ce qui est en lui-même supérieur. Il domine par ce qui domine en lui, la noblesse d'âme. La noblesse d'âme, c'est reconnaître qu'il y a en soi-même quelque chose de haut. Et à partir de ce point, il trouve une hiérarchie, comme toujours. C'est à partir du moment où il met comme valeur suprême ce qui le distingue lui-même par ce qu'il découvre en lui de plus haut, il fonde évidemment une hiérarchie. C'est-à-dire ce qui est incapable de se hausser à cette hauteur ne suscite en lui que le mépris. Ce jugement de distinction écarte ce qui s'oppose à lui. Et nous trouvons ici la notion nietzschéenne du mépris, Verdacht, je crois. Le mépris. Alors, on trouverait beaucoup de textes dans Ainsi par les Zarathoustra. Le mépris, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en tout cas dans le cas de Nietzsche, c'est ne pas avoir de considération pour, ne pas même regarder ce qui est en dessous de vous, ne pas même avoir un regard, ne pas, voilà, le mépris, c'est tu ne comptes pas pour moi, c'est zéro. Donc c'est pas le sentiment de ma supériorité. Le noble n'a pas besoin d'avoir un sentiment de sa supériorité. Il la possède et il l'affirme. Le mépris est un acte positif d'ignorance de l'autre, de non-considération de ce qu'il est, et le mépris s'oppose dans la sémantique nietzschéenne au ressentiment. Le ressentiment, c'est vous domine à partir du moment où vous êtes obsédé par ce que vous repoussez. Le ressentiment, c'est toujours remâcher la même haine froide à l'égard de cette personne. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous dégager de ce sentiment de haine, de déconsidération, etc. Vous êtes esclave de ce sentiment. Voilà, le ressentiment nietzschéen, c'est ça. C'est que vous êtes prisonnier d'eux. Eh bien, la caractéristique de l'âme noble, c'est qu'elle ne connaît pas le ressentiment. Du moins, en principe. C'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de la considération des autres. L'homme du ressentiment est celui qui est obsédé par ce qu'il repousse. Ce qui veut dire, justement, que la morale noble ne procède pas par comparaison avec autrui. Le maître ne lie pas sa supériorité dans le regard de l'esclave. Le maître s'affirme lui-même. Et ici, je fais une petite remarque de comparaison, ce que je fais rarement, mais je le fais ici, puisqu'effectivement, on trouve chez Hegel une dialectique du maître et de l'esclave, dans la phénoménologie de l'esprit, si vous savez, une section Geist. Bon, dans la perspective hegelienne, le maître d'une certaine façon, a besoin de l'esclave. Et il a besoin de lire sa maîtrise dans le regard soumis de l'esclave. De même que l'esclave voit dans le regard du maître la domination exercée sur lui. Ce qui est la raison pour laquelle, chez Hegel, il y a un retournement, comme vous savez, de l'esclave sur le maître. C'est-à-dire qu'à un moment, l'esclave devient le maître du maître, parce qu'il a travaillé, etc., et qu'il devient plus actif, plus supérieur au maître, qui lui s'effondre. Donc, c'est l'esclave qui finalement triomphe du maître. Dans le cas de Nietzsche, il n'y a pas de vis-à-vis. Et donc, il n'y a pas de dialectique. Le noble n'a aucun regard sur l'esclave. Et nous allons voir tout à l'heure, c'est l'esclave, lui, qui a besoin de se considérer comme vil en regardant le noble. Mais le noble, l'aristocrate, l'homme supérieur, l'homme distingué, n'a pas besoin de ça. Donc on est tout à fait, je crois, dans une autre perspective que la perspective hegelienne. Je ne dis pas que la perspective hegelienne ne fait pas sens, mais c'est une autre problématique qui n'a rien à voir avec celle de Nietzsche. Donc, l'homme distingué domine à partir de ce qui domine en lui. D'où la distinction qui nous est faite ici. Remarquons sans tarder que dans ce premier type de morale, l'opposition bon-mauvais, toujours les mots de guillemets, a le même sens que l'antithèse noble-méprisable. L'opposition bon-méchant a une autre origine. Bon-méchant, c'est l'origine servile. Le lâche, le peureux, l'individu mesquin, étroitement utilitaire, sont méprisés. De même que l'homme méfiant au regard des pourvus de franchise, l'homme qui s'humilie, le chien humain qui se laisse maltraiter, le flatteur qui mendie et surtout le menteur. Tous les aristocrates sont Grundglaube, ont la conviction fondamentale que le vulgaire ment. Alors, on a donc une morale qui va poser une distinction entre le bon et le mauvais. Schlecht. Le supérieur, le distingué, s'oppose au méprisable. Est mauvais du point de vue du supérieur ce qui accepte de se comprendre à partir d'autre chose que soi. L'esclave va se comprendre dans le regard du maître, dans la dépendance. Bon, le créateur n'a pas besoin de se comprendre dans la dépendance parce qu'il est créateur. L'esclave va se comprendre, c'est difficile de couper tout à fait les choses en deux, mais il va se comprendre dans une relation utilitaire, dans une relation de rapport à l'autre. Et il aura besoin de l'autre pour s'affirmer. Le véritable créateur n'a pas besoin de l'autre pour s'affirmer. La dépendance est la caractéristique de la servitude. Alors, nous retrouverons ici, évidemment, tout ce que Nietzsche dit de méchant, c'est le cas de le dire, sur le moderne. Et nous retrouverions Tocqueville, que nous avons déjà rencontré. Tocqueville a cette intuition que, dans la lutte pour l'égalité des conditions, chaque individu moderne a le regard fixé sur l'autre. Il doit chercher à devenir égal à celui qui lui est supérieur. Lui est plus riche que moi, il a changé sa voiture tous les 6 mois et moi je ne peux pas la changer. Donc le moderne, selon Tocqueville, et je crois que c'est une vue très profonde, passe son temps à se comparer. Ce qui pour Nietzsche veut dire qu'il est un esclave. Il est esclave de la consommation, il est esclave de la richesse, il est esclave des apparences. Mais il est pris dans une espèce de mouvement, de ressentiment indéfini à l'égard de ce qui le dépasse. Et bien entendu, aux yeux de Tocqueville comme aux yeux de Nietzsche, il n'arrive jamais à l'égalité. L'égalitarisme est une pure illusion. Donc il a toujours ce mouvement à faire, et on voit bien dans nos sociétés riches, on est toujours le pauvre de quelqu'un, et on est toujours appelé à un dépassement de soi qui finalement n'aboutit qu'à un effort vain. Bon, on pourrait aussi penser, j'y ai fait allusion l'autre jour, à la fameuse volonté mimétique de René Girard. La violence pour Girard, c'est pas la violence d'abord interhumaine, c'est que l'autre veut le même objet que moi, et que nous sommes tous les deux à le vouloir. Et donc nous nous battons pour avoir l'objet. Et lorsque nous l'avons eu, il y a un autre objet qui s'interpose, et ainsi de suite. C'est, on pourrait faire une analyse de ce point de vue-là, de la société de consommation. Ce qui veut dire que on est dans une perspective d'insatisfaction indéfinie et permanente, de souffrance indéfinie et permanente. On accepte d'être maltraité, on accepte de se vouloir esclave pour pouvoir en sortir. Voilà. cette morale, celle de la noblesse, est une morale interhumaine, c'est une morale de groupe. Elle suppose des hommes, mais non des actes. N'est-ce pas? Je continue. Il va de soi que les jugements moraux se sont d'abord appliqués aux hommes, et seulement plus tard, par exception, aux actes. C'est pourquoi les historiens de la morale commettent une lourde erreur lorsqu'ils prennent comme point de départ une question comme « Pourquoi l'acte charitable a-t-il été l'objet de louanges ?» Le type d'homme distingué, sans qu'il détermine les valeurs, il n'a pas besoin d'approbation, il juge que ce qui lui nuit est nuisible en soi, il sait que c'est lui qui confère de la dignité aux choses, il est créateur de valeurs. Donc cette morale est une morale qui suppose, pour reprendre une référence aux Grecs, un homme de vertu. Il ne s'agit pas de juger sur les actes. Là, à nouveau, c'est tout à fait kantien. Les actes sont toujours ambigus. On pourrait presque dire que cette morale a un contexte personnaliste. Ce qui compte, c'est la qualité humaine, plus que les actes. Et le noble pourra commettre des actes indignes et des actes condamnables. Bien entendu, il n'est pas au-dessus, c'est pas un saint pour aux yeux de Nietzsche, bien entendu. Mais simplement, il se distingue par sa propre qualité morale. Donc c'est un homme de vertu. Et nous retrouverons ici Aristote, c'est-à-dire que la morale des Grecs est d'abord la morale des vertus, ce que retrouve un certain nombre de philosophes aujourd'hui, et non pas la morale des actes. Ce qui caractérise moralement un homme, c'est sa vertu. D'où découleront des actes bons. Mais pas nécessairement. Il peut être dans des conditions où, au contraire, il va trahir sa propre noblesse. Mais c'est un acte de vertu. C'est une morale de la vertu, pourrait-on dire. Nietzsche n'emploie pas ce mot ici, mais on peut se référer en effet à Aristote. L'idée qu'au fond, pour Aristote, l'homme véritablement moral n'a pas honte de lui-même. Il n'a pas honte de lui. Il est fier de soi. Il est fier, non pas, alors, non l'entendons pas dans un sens servile, il n'est pas fier en se comparant aux autres, en disant « moi j'ai plus de valeur que les autres », mais parce qu'il a conscience de sa valeur propre, point. Il a conscience d'être créateur et donc d'être capable de poser des valeurs. Alors on pourrait dire que sous-jacente à tout ceci, il y a une critique, j'y reviendrai à propos de l'esclave, de l'utilitarisme. C'est-à-dire de l'appréciation des choses et des actes en tant qu'ils sont utiles ou qu'ils sont caractéristiques d'une bonne conduite qui va servir au bien collectif. On risque de conclure dans une morale utilitariste que, puisque ces actes sont utiles au groupe, etc., ils sont bons. Et donc on va porter des jugements qui vont porter sur les actes mêmes plus que sur les vertus des individus. Et Nietzsche repousse, nous le retrouverons dans la morale des esclaves, ce matérialisme utilitariste qui est, il faut bien le dire, au principe de la civilisation marchande, où finalement l'individu trouve sa valeur dans l'échange. Il juge de lui-même par les choses qu'il est capable de monnayer, par l'argent, par la richesse, par la gloire, par l'honneur, etc. Donc, par des choses extérieures à lui, dont il est finalement l'esclave. En oubliant que un jugement moral, en tout cas pour Nietzsche, est un acte souverain de jugement. Ce qui suppose évidemment une appréciation subjective et non pas qu'est-ce que les autres vont penser d'eux, qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Alors, première caractéristique, nous avons eu une morale qui décide souverainement. C'est une morale qui pose une hiérarchie entre bon et mauvais. Et c'est une morale créatrice de valeur. Elle honore tout ce qu'elle trouve en soi. Une telle morale est une glorification de soi, Verherrlichung. Elle met au premier plan le sentiment de la plénitude, de la puissance qui veut déborder, le bonheur de connaître une forte tension, la conscience d'une richesse qui voudrait donner et prodiguer. L'homme distingué secourt lui aussi le malheureux, non pas ou presque pas par compassion, mais par l'effet d'un besoin qui naît de la surabondance de sa force. L'homme distingué honore en lui l'homme puissant, l'homme qui a aussi pouvoir sur lui-même, qui sait parler ou se taire, qui prend plaisir à exercer contre lui-même, j'insiste avec force, à exercer contre lui-même sa sévérité et sa dureté, qui respecte tout ce qui est sévère et dur. Bon, le noble donne du poids aux choses, donne du poids plutôt à ce qu'il fait, aux valeurs qu'il reconnaît. Alors, il ne s'agit pas à nouveau d'un subjectivisme intempérant, d'un caprice, parce que, à nouveau, le noble obéit à ce qui est plus haut en lui. Donc, il se déshonorerait, c'est-à-dire qu'il trahirait sa propre morale s'il se laissait aller à ses pulsions, à ses tendances, à ce qu'il y a de vil en lui, à ce qu'il y a d'esclave en lui. Donc, l'idée, c'est qu'il s'agit de s'affirmer soi-même, de s'honorer soi-même. Selbst Verherrlichung. Alors, ici encore, je crois qu'il faut éviter les contresens. Ce n'est pas une affaire d'orgueil. Parce que l'orgueil consiste à dire « je suis plus fort, plus malin, plus intelligent que les autres ». Alors, c'est peut-être difficile à comprendre, mais dans le cas de Nietzsche, l'homme distingué se distingue précisément par le fait qu'il ne se compare pas. Il s'honore lui-même. À nouveau, me semble-t-il, pour tâcher d'entendre ce qui est dit là, il faut toujours penser à l'artiste. L'artiste qui est vraiment créateur, et tous les artistes ne sont pas vraiment créateurs, nous avons des exemples tous les jours. L'artiste qui est vraiment créateur ne se compare pas. Il crée. Il est conscient de sa propre capacité à inventer, à créer du neuf, à ouvrir des chemins nouveaux. Et il ne va pas chercher à imiter les autres. Ça, c'est le mauvais artiste. Le véritable créateur, je sais pas, Michel-Ange, Bach ou qui vous voudrez, Cézanne, il a une espèce de certitude en lui-même qu'il est capable de faire son chemin, même si, et surtout si, pas le surtout si, c'est moi qui l'ai, même si il est totalement méconnu et méprisé par les autres. Il continuera son chemin dans la certitude d'avoir quelque chose à dire. Bon, c'est le drame, je lirai des textes à l'heure, finalement, de tout artiste et de tout homme noble, c'est qu'il suit son chemin, y compris dans la souffrance et dans le mépris des autres. Alors, je crois qu'il faut faire attention dans ce mot de création des valeurs. Parce que Sartre, ou un philosophe qui est peu connu maintenant, qui s'appelle Raymond Paulin, P-O-L-I-N, qui est un peu sartrien sur les bords, sont passés par là et ont compris la création des valeurs, en pensant s'appuyer sur Nietzsche, comme une néantisation. Comme créer des valeurs à partir de rien, à partir de soi. Hein, la fameuse liberté sartrienne, qui est un pour-soi qui se pose de manière absolue à partir de rien. Alors on pourrait dire, voilà, si c'est ça la création des valeurs, évidemment c'est une idée complètement aberrante, on ne crée jamais à partir de rien. Mais tout ce que nous avons dit montre que ça n'est pas nietzschéen, parce que la création des valeurs, elle se fait dans des conditions données. Il s'agit d'affronter des conditions défavorables. Il s'agit de prendre en compte ce que l'on est pour en faire autre chose, pour se surmonter soi-même, comme dit Nietzsche. Donc ce n'est pas une création à partir de rien. Mais c'est une création quand même parce qu'elle fait du neuf. Et ça, je crois que c'est la grande idée nietzschéenne, que la morale est créatrice de quelque chose de positif. Alors ça fait rugir les chrétiens, parce que quand on entend ça, les théologiens disent « création des valeurs, c'est affreux, qu'est-ce que c'est que cet orgueil, ce prométhéisme ?» Mais je crois que si l'on entend les choses droitement, il n'en est rien, et que c'est même une idée très intéressante, et je crois féconde, parce que ça veut dire que la morale n'est pas du domaine du rabat-joie ou de l'interdit. Elle suppose une maîtrise de soi. Ben, Dieu sait si Nietzsche le dit, une maîtrise de soi. Mais elle est créatrice de neuf. Je prends un exemple un peu simple et bêta. On a un ami qui est malade. À l'hôpital ou chez lui, on peut aller le voir ou bien aller au cinéma. Si on va le voir, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un acte bon. Mais on crée, on nourrit, on féconde une amitié. On crée quelque chose qui n'était pas. Et on pourrait dire que tout acte bon, moralement bon, est créateur de quelque chose qui n'était pas. On fait sortir du néant, il faut bien le dire, une réalité qui n'était pas. Et si on n'avait pas posé cet acte, ben effectivement, il ne se serait rien passé, mais peut-être qu'il serait passé du néant, c'est-à-dire que l'amitié avec cet ami s'en serait trouvée compromise. Donc je crois qu'on peut tout à fait accepter l'idée de création des valeurs, parce qu'elle donne de la morale une autre idée que la conception rabat-joie. Quand un instituteur qui s'occupe de ses gamins dans sa classe, il est créateur de quelque chose de positif, plutôt que s'il s'en moque. Il est créateur positivement quand il s'occupe du plus démuni de la classe, en ne s'occupant pas seulement des plus brillants. Il crée quelque chose, il crée de l'égalité, il aide l'enfant le plus démuni à prendre conscience qu'il n'est pas aussi idiot que les autres le disent. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il est bien créateur d'une valeur positive. Donc je crois qu'on peut tout à fait retenir cette idée. Alors, ce qui est intéressant encore, et je crois que c'est un autre aspect à remarquer, c'est que cette création, elle se fait à partir de la surabondance. L'avarice relève pour Nietzsche de la servitude. La surabondance, nous allons retrouver ça à propos du divin chez lui la prochaine fois, elle est un surcroît. Et, n'est-ce pas, vous avez vu dans les textes que nous avons lus, c'est le noble, le distingué, il est capable de générosité, d'oubli de soi, de donner. Mais pas par commisération, pas par pitié, parce que la pitié c'est « Oh, comme c'est malheureux et que ça me fait souffrir, donc je veux supprimer ta souffrance en supprimant la mienne ». Donc je reviendrai sur la critique de la pitié chez Nietzsche, mais dans la pitié, on a pitié de soi. Le noble, il donne pour donner. Il donne parce qu'il faut donner, il faut tirer le malheureux de l'impasse dans laquelle il est. Il faut aller voir cet ami qui est malade parce que ça va lui donner du moral, ça va le renforcer dans sa lutte contre la maladie. Voilà, c'est pas dans un but intéressé ni utile. Si on fait ça au niveau de l'utilité, vous voyez ce que ça donne. Donc il y a une question de générosité, de surabondance, d'inauguration, de faire du nouveau. Suppose donc avoir conscience, je cite Nietzsche, d'une richesse qui voudrait donner et prodiguer. Donner et prodiguer. Le don gratuit. Morale de la prodigalité. Non de la convoitise avare, de la critique destructrice, de la complaisance pour son acte de miséricorde. Le noble en est capable. Ou celui qui en est capable est un homme distingué. Mais il ne s'attache pas à son acte, il donne. Et il ne dit pas « Regardez comme je suis beau parce que je donne ». Donc il ne donne pas en disant « Je vais avoir 10% de moins à payer dans mes impôts ». Il donne. Alors, la prodigalité est une condition de la morale, noble. Et la prodigalité, à nouveau, ne compare pas. Selbstlosigkeit, l'absence de considération de soi. Donc, j'y ai fait allusion il y a un instant, l'homme noble n'a pas de compassion. Compatir, c'est justement souffrir avec autrui. Et ici, Nietzsche se dégage et de Schopenhauer, son maître. Vous vous souvenez de ce que j'avais dit, enfin, ce que nous avions vu à propos de Schopenhauer, la pitié qui nous fait correspondre avec la souffrance de l'univers entier. Comme il se dégage d'ailleurs de Rousseau. La grande critique, c'est celle que j'ai dite tout à l'heure, c'est que la pitié est au fond une illusion. Ou elle est un mensonge, une illusion, parce que vous croyez que vous pouvez vous identifier à la souffrance d'autrui. On ne peut jamais s'identifier à la souffrance d'autrui. On croit s'identifier à la souffrance d'autrui, mais ce faisant, que fait-on ? Eh bien, on se fait souffrir soi-même. Et donc on se complaît dans sa souffrance. Et par conséquent, cette souffrance-là est, aux yeux de Nietzsche, totalement illusoire. Alors je fais remarquer qu'il y a quand même toute une tradition forte hein, pour l'exaltation de la pitié, qu'on trouvera un peu dans l'écologie. Il ne faut pas faire souffrir les plantes, il ne faut pas faire souffrir les animaux, il ne faut pas faire souffrir le chat, il ne faut pas faire souffrir les... Alors certainement qu'il y a du vrai là-dedans, mais si l'on fait comme Lévi-Strauss dans un de ses textes, je crois que c'est dans Triste Tropique, qu'on fait de la pitié le fondement de la morale, ça c'est absolument anti-Nietzschéen. Mais notre ami Lévi-Strauss c'était un peu bouddhiste sur les bords. C'est-à-dire, et reconnaissait sa dette à Rousseau sur ce point de la pitié. Alors, enfin, et c'est le dernier trait, cette morale de la surabondance, de la générosité, est aussi une morale de la vénération. Troisième aspect, ce sont les forts qui savent vénérer. C'est là leur art, leur domaine propre, où ils se montrent inventifs, une nouveau création. Le respect profond de la vieillesse et de la tradition, le droit tout entier repose sur ce double aspect, ce double respect. Le préjugé en faveur des ancêtres et au détriment des nouvelles générations sont des traits caractéristiques de la morale des forts. Inversement, les tenants des idées modernes, toujours, entre guillemets, avec leur foi presque instinctive dans le progrès, dans l'avenir, leur irrespect grandissant pour la vieillesse trahissent du même coup l'origine roturière de ces idées. Donc, comme il dit en allemand, le Reich, le domaine des puissants, c'est la vénération. Et pour Nietzsche, je renvoie au Gai Savoir, paragraphe 100, il est très difficile d'être reconnaissant. Parce que nous sommes, il est très difficile de... du don qui ne compte pas. Et parce que, finalement, la morale utilitariste joue sur l'utilité, c'est-à-dire le confort, sur sa mesure. Or, la vénération relève d'une certaine façon du sans-mesure. On admet ce qui est autre, inassimilable. On reconnaît une grandeur que l'on n'a pas. On vénère, on reconnaît une grandeur que l'on n'a pas. Le noble est capable de reconnaître la grandeur de l'autre. Il est capable de vénérer l'autre. Et en un sens, la vénération, c'est de reconnaître la valeur que l'on n'a pas et que l'on ne peut pas avoir. D'où une des caractéristiques de la morale aristocratique, c'est la vénération pour la tradition. Or, la tradition, c'est évidemment ce dont on dépend sans y être pour rien. On retrouve à nouveau Tocqueville. Le moderne, les idées modernes croient qu'on, regardez Michel Serres, on invente à partir de la table rase. La tradition n'a rien à nous apprendre, il faut même s'en défaire. Eh bien, le noble, il a le sens de la tradition, aux yeux de Nietzsche, et il ne la méprise pas, il la vénère. Ça ne veut pas dire qu'il s'agenouille devant lui. Et alors, vous avez cette affirmation tout à fait surprenante. Petite philosophie du droit en passant, le fondement du droit, le droit tout entier repose, donc c'est le fondement du droit, sur le respect de la vieillesse et de la tradition. Alors, ça n'est pas le jeunisme, n'est-ce pas? Le droit a un double respect, la vieillesse et la tradition. C'est-à-dire la durée. C'est pas totalement faux. Parce que c'est la durée et qui nous empêche de tomber dans l'adoration de l'instant ou de la pulsion. Alors ça, c'est évidemment tout à fait intéressant. On pourrait dire que que Nietzsche dénonce aussi le jeunisme. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait des vieillards dans nos sociétés? Ils sont des gens, des poids lourds. Ce qui vaut, c'est la jeunesse, la nouveauté, l'innovation. Les vieux, qu'est-ce qu'on a à foutre? On les met dans des maisons réservées. Alors, vous êtes fatigué ou on continue encore un peu? On peut faire une pause de 2 minutes sur place? Parce que je voudrais montrer en même temps, par quelques textes, que ce noble est en même temps quelqu'un de fragile. Bon, mais on va sur place, si vous voulez, 2 ou 3 minutes. Parce que pour reposer la voix. Voilà, si vous n'êtes pas trop fatigué, on peut reprendre. Ça sera, rassurez-vous, un peu avant. Voilà, alors, bon, c'est une morale en même temps qui ne veut pas être universelle, puisque je laisse de côté la fin de ce passage. C'est une morale entre égaux, de la même caste, finalement. Ce n'est pas une morale universalisable. Mais je voudrais, tout de même, pour compléter ce tableau, faire remarquer qu'aux yeux de Nietzsche, l'homme distingué n'est pas un être en acier, blindé, qui ne connaîtrait pas la faiblesse. Et nous pouvons lire, sans trop le commenter, parce qu'il parle de lui-même, l'aphorisme 269. Qui est, je crois, très caractéristique de ce que je laisse entendre. Je vais le lire tout simplement. Plus un psychologue né, un devin prédestiné des âmes, bon, on voit qui c'est, n'est-ce pas, tourne son regard vers les cas exceptionnels et les hommes hors du commun, plus il risque de suffoquer de pitié. Plus qu'un autre, il aura besoin de dureté, de sérénité. L'échec, le naufrage des hommes supérieurs, des âmes taillées sur un modèle exceptionnel, est en effet la règle. Il est horrible d'avoir cette règle constamment sous les yeux. Le tourment sans cesse recommencé du psychologue qui a découvert ce naufrage et redécouvre presque partout dans le cours de l'histoire cet état de perdition qui gît au cœur de l'homme d'élite, cet éternel trop tard, à tous les sens du mot, ce tourment l'entraînera peut-être un jour à se retourner amèrement contre son propre sort et à tenter de se détruire lui-même, de périr lui aussi. Bon, alors je saute un peu, vous pouvez regarder la suite. Donc, ça veut dire que le créateur lui-même, et là on tombe au niveau de la psychologie historique élémentaire, est un être fragile, est un être qui doute de lui-même à certains moments, et qui est même porté à la destruction de soi. Donc ça, je crois que c'est une image à retenir du noble. D'ailleurs, nous l'avons un peu vu avec le soulèvement de la morale des esclaves, l'homme supérieur n'est pas si supérieur qu'il n'en vienne pas à s'effondrer. Et le rôle, la ruse de l'esclave, dans la Genèse de la morale, il parlera du prêtre ascétique. Le rôle, la ruse du prêtre ascétique, dit donc de l'esclave, ce sera de semer le doute dans l'esprit de l'homme supérieur. De lui dire, tu te crois supérieur, tu te crois porté par le plus haut de toi-même, en es-tu si sûr? Et donc, en instillant le doute chez le noble, il va peu à peu l'amener, finalement, à se reconnaître lui-même esclave. Donc, ça veut dire que le noble n'est pas blindé dans une espèce de fermeture sur soi sans problème. Alors, je lis quand même un peu la suite. Qui sait si dans tous les cas remarquables, le même phénomène ne s'est pas produit? La foule adorait un dieu et le dieu n'était au fond qu'une malheureuse victime. Le succès a toujours été le plus grand des menteurs et l'œuvre même est un succès. Le grand homme d'État, le conquérant, l'inventeur apparaissent déguisés dans leur création jusqu'à en devenir méconnaissables. C'est l'œuvre de l'artiste, l'œuvre du philosophe qui invente après coup celui qui l'a créé et qui passe pour l'avoir créé. Bon, après coup, nous disons, Michel-Ange, c'était merveilleux, Proust, quel... Oui, mais si vous regardez l'homme Proust, si vous passez derrière la muraille, ou l'homme Machiavel, l'homme Michel-Ange, on pourrait dire de Machiavel, ben, vous apercevez que vous allez faire un pauvre type, souvent. Proust, un type constamment malade, qui vomissait, qui dormait pas, qui... Nietzsche lui-même. On voit l'œuvre, on dit... Et oui, mais regardez l'homme. Les grands hommes tels qu'on les honore sont de méchantes petites rhapsodies composées après coup. Dans le monde des valeurs historiques, la fausse monnaie règne. Ces grands poètes, par exemple, c'est Byron, Musset, etc. Considérons-les tels qu'ils sont, peut-être tels qu'ils doivent être, hommes de l'instant qui passe, enthousiastes, sensuels, puérils, frivoles, et prompts aussi bien à accorder leur confiance qu'à la retirer, etc., etc. Alors, il y a un petit passage presque à la fin. Une compassion de ce... Bon. Celui qui connaît le cœur... C'est dans le dernier tiers. Celui qui connaît le cœur humain, c'est bien toujours Nietzsche, Devine combien même l'amour le plus dévoué et le plus profond est pauvre, démuni, présomptueux, aveugle, plus capable de détruire que de sauver. Il se peut que la sainte fable sous laquelle se déguise la vie de Jésus, hein, on a déjà parlé de Jésus, cache un des cas les plus douloureux de martyr engendré par la connaissance de l'amour, le martyr du cœur, le plus innocent et le plus avide, qu'aucun amour humain ne pouvait satisfaire, qui exigeait d'être aimé, qui exigeait d'aimer, d'être aimé et rien d'autre. Il exigeait durement, follement, avec de terribles explosions de colère contre ceux qui lui refusaient leur amour. L'histoire d'un être malheureux, toujours altéré d'amour, qui dut inventer l'enfer pour y envoyer ceux qui refusaient de l'aimer, et qui enfin, ayant appris à mieux connaître l'amour humain, dut inventer un Dieu qui fut tout amour et pouvoir d'aimer, qui prend pitié de l'amour humain parce qu'il est si misérable, si ignorant. Celui qui sent ainsi, qui a une connaissance de l'amour, cherche la mort. Mais convient-il de se perdre dans ces réflexions affligeantes, à moins d'y être obligé? Voilà, Jésus, un déçu de l'amour, tellement déçu qu'il en vient à désirer la mort. Bon, ça c'est Nietzsche, mais je veux dire, ça fait partie du portrait aussi que nous avons déjà esquissé de Jésus. Ce qui veut dire aussi que Jésus est plutôt mis ici du côté de l'homme supérieur. Il est ému par un amour évidemment impossible, qu'il attendait de tous les hommes, puis les hommes lui donnent des coups. Mais voilà, et il a souffert finalement à constater l'impuissance des hommes à aimer. Alors on pourrait regarder aussi le paragraphe 276, plus bref. Une âme grossière supporte mieux qu'une âme noble les blessures et les pertes de toutes sortes. Les dangers que court la seconde, l'âme noble, sont sans aucun doute plus élevés. Il y a même une énorme probabilité pour qu'elle succombe et fasse naufrage, vu la complexité de ses conditions d'existence. Quand un lézard perd un doigt, il repousse. Il n'en est pas de même chez l'homme. Voilà, donc le fort, il n'est pas si fort que ça, n'est-ce pas? Il n'est pas si fort que ça, il peut s'effondrer. Le grand créateur est celui qui a les plus grands doutes sur lui-même aussi. Donc je crois que ça nuance quand même assez fortement ce qu'on pourrait entendre du noble. Bon, on peut donc avancer et passer à la morale des esclaves. Bon, la morale des esclaves. Alors, de la même façon, donc à partir de... dans le premier cas, quand les maîtres déterminent... Non, pardon. Il n'en va pas de même pour le second cas, la morale des esclaves. Alors, là encore, il va donner trois caractéristiques. La morale des esclaves est une morale du regard sur l'autre, de la dépendance. La morale des esclaves est essentiellement une morale de l'utilité, deuxième caractéristique. Troisième caractéristique, c'est une morale de l'aspiration à la liberté. Dernière différence essentielle, le Verlangen, l'aspiration à la liberté, l'instinct du bonheur et les raffinements du sens de la liberté appartiennent aussi nécessairement à la morale, à la moralité de l'esclave, que l'art et l'enthousiasme du respect et du dévouement constituent régulièrement le symptôme d'une pensée et d'une hiérarchie de valeurs aristocratiques. Bon, la morale des esclaves, supposons que des êtres brimés, opprimés, souffrants, dépendants, incertains d'eux-mêmes et fatigués, se mettent à proposer une morale. Donc des hommes qui sont eux-mêmes abattus et fatigués d'eux-mêmes, fatigués de la vie. Quel type de morale? Quel sera le caractère commun de leurs appréciations morales? Eh bien, ils exprimeront probablement une défiance pleine de pessimisme à l'endroit de la condition lague, de la condition humaine. Peut-être condamnera-t-il l'homme et la condition humaine tout ensemble. Donc, le premier trait, c'est la défiance envers la situation de l'homme. Et c'est cette défiance qui est un des premiers traits caractéristiques de la morale des opprimés, quand évidemment ils s'expriment dans une morale. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont une vue pessimiste et négative de la totalité de la situation humaine. ils ont un jugement dépréciateur de ce que Nietzsche appelle parfois le cours du monde, la société. Au fond, ce sont des hommes proches de Schopenhauer, qui sont finalement marqués, obsédés, travaillés par le non-sens de toute chose, par la méchanceté de toute chose, par la complexité, la complicité de toute chose à se coaliser pour les écraser. Le monde est mauvais, et ce monde mauvais veut m'écraser. Alors, on peut trouver, l'esclave va trouver toutes sortes de références, d'alibi, d'effigie, comme il dit dans la Généalogie de la morale, pour trouver une cause à cette faiblesse. La divinité. Pourquoi Dieu a-t-il fait un monde si mauvais, si mal, et où je souffre tant? C'est une divinité affreuse. L'homme faible, finalement, s'identifie, lie la condition humaine comme une condition misérable, avaricieuse, absurde. Et Dieu sait si, dans une postérité nietzschéenne frauduleuse, on a insisté sur le « jeté là », sur l'individu floué, sur le monde absurde, le monde n'a pas de sens. Il est même fait pour nous écraser. On pourrait dire que ce premier trait de la morale des esclaves se retrouve dans le Zarathoustra, vous savez, les trois grands textes dans le prologue, des trois métamorphoses, où l'esprit, le Geist, se fait tour à tour chameau, lion et enfant. Eh bien, on pourrait dire que le premier trait de la morale de l'esclave, c'est l'esprit sous la forme du chameau. Le chameau, dit ce texte très méchamment, il est heureux d'avoir des fardeaux. Il n'existe que par les fardeaux qu'il porte. Plus il y a de fardeaux, plus le chameau se sent chameau. Eh bien, l'homme esclave est heureux de sa souffrance. Il jouit du fait d'être écrasé par le monde. Il se proclame la victime d'un monde mauvais. Voilà, ça je crois que c'est un trait très, très méchant, celui qui voit le monde comme un monde mauvais. Entre parenthèses, évidemment pour Nietzsche, le monde n'est ni bon ni mauvais. Innocence du monde, ce que nous retrouvons dans l'éternel retour. Le monde n'est pas là pour vous faire souffrir. Il n'est pas là non plus pour vous gratifier toute espèce de... Il est ce qu'il est, c'est tout. Bon. Mais l'esclave, lui, lit le monde comme mauvais. Dans un petit texte du Gai Savoir, qui est, je crois, très instructif, on dit ceci, « L'œil mauvais rend le monde mauvais. » Celui qui veut voir le monde mauvais verra toujours le monde comme mauvais. Et Dieu sait si aujourd'hui la littérature est abondante de ceux qui voient le monde comme mauvais. L'œil mauvais rend le monde mauvais. Le monde n'est ni bon ni mauvais. Il est un mélange d'exploitation. Enfin, nous avons vu tout ça. Mais c'est l'œil mauvais. C'est évangélique, finalement. L'œil mauvais qui rend le monde mauvais. Alors, bien entendu, ce mauvais œil jeté sur le monde, l'esclave va le jeter sur le noble. Là où le noble vénère, eh bien, l'esclave met de la méfiance. Il va, lui, mépriser ce que le noble vénère. Car pour l'esclave, la noblesse du noble est un défi insupportable. Il lit cette glorification de soi du noble comme un jugement contre lui. S'il a la capacité de créer, c'est qu'il me méprise. C'est un jugement que le faible fait lui-même en voyant le noble. Donc, l'esclave est aussi créateur, mais il est créateur de valeurs négatives. C'est pas le noble qui écrase le faible, hein, ça c'est très important. C'est le faible lui-même qui se donne un monde de faiblesse et qui se veut victime. Et donc, qui estime que le noble le méprise. Alors que le noble n'a rien à faire avec lui. Le noble est noble, et puis c'est tout. Donc, il trouve le noble comme un défi insupportable. Et c'est lui qui juge le noble comme, évidemment, une réalité mauvaise. Avec cette idée que le bien du noble n'est pas authentique, et donc que sa richesse, sa gloire, sa capacité de créer sont des misères. On pourrait dire qu'il y a une sorte de projection chez le noble de la misère du faible. Le noble n'est vu par le faible que comme un faible qui s'ignore. C'est-à-dire pour soi, qui va pouvoir ensuite le convaincre de sa propre faiblesse. Donc, le faible ou l'esclave est incapable de distance. Il lie le noble comme un misérable qui s'ignore. C'est-à-dire, il le lie à son image. L'esclave ne peut pas voir autre chose que de l'esclavage partout, que de la misère partout. Et le noble, à nouveau, est un misérable qui s'ignore. Donc, le noble est jugé par le faible à partir de sa propre faiblesse. Pas dans sa différence. Et évidemment, l'esclave va valoriser tout ce qui peut alléger une existence estimée insupportable ou trop lourde à porter, mais il jouit du poids des choses. Donc, le premier trait, c'est cela. Ils exprimeront une défiance pleine de pessimisme à l'endroit de la condition humaine. Le regard de l'esclave est défavorable aux vertus du puissant. Il est plein de scepticisme et de méfiance, d'une méfiance retorse, c'est la ruse, à l'égard du bien, entre guillemets, que le puissant honore. Il aimerait se convaincre que même le bonheur du puissant n'est pas réel. Parce que je disais, c'est un mensonge. En revanche, il préconisera, mettra en lumière les qualités qui servent à alléger l'existence de ceux qui souffrent. Il honorera la pitié, l'esprit de serviabilité, d'altruisme, l'affection, la patience, l'empressement, l'humilité, l'amabilité, car ce sont là les qualités les plus utiles, à peu près les seuls remèdes pour supporter le poids de l'existence. Donc c'est des espèces de baumes que l'esclave valorise pour pouvoir porter une existence. Donc le premier trait caractéristique, je dirais, c'est celui-là. Le second, la morale des esclaves est essentiellement une morale de l'utilité. C'est là qu'il faut chercher l'origine de la célèbre distinction entre bon et méchant. Pour le sentiment, le méchant est inséparable de la puissance et de son danger. Il engendre une certaine terreur, il renferme en lui un raffinement et une force qui se moquent du mépris. Selon la morale des esclaves, c'est donc le méchant qui inspire de la crainte. Selon la morale des maîtres, au contraire, c'est le bon qui est craint et qui veut se faire craindre, tandis que l'homme mauvais est considéré comme méprisable. L'antithèse est portée à son comble quand, conformément à la logique de la morale servile, l'homme bon de cette morale n'échappe pas lui-même à une appréciation dédaigneuse du fait que, dans la pensée des esclaves, l'homme bon doit être de toute façon celui dont on n'a rien à craindre. Il est bien disposé, facile à tromper, peut-être un peu sot, bref, un bonhomme. Partout où prévaut la morale des esclaves, la langue a tendance à rapprocher la bonté de la bêtise. Bon, c'est à nouveau très méchant. Donc, c'est une morale de l'utilité. C'est-à-dire, on met au premier rang les valeurs utiles pour supporter que l'existence soit si lourde. Alors, ici à nouveau, on juge l'existence comme insupportable et il faut l'alléger. Et on l'allège en valorisant les valeurs utiles à tous. C'est sûr qu'il y aurait tout un élément à faire sur la critique extrêmement aiguë que Nietzsche fait de l'utilitarisme anglais. Et alors, on peut estimer qu'il n'a pas très bien compris, qu'il est même injuste, que l'utilitarisme est autre chose que ce qu'on dit, que ce qu'il lui fait dire. Mais vous pouvez vous référer au paragraphe 228 et vous verrez son extrême sévérité. En quoi consiste sa critique? Je dirais pour l'essentiel, il voit dans la morale utilitaire une morale du bonheur partagé, le plus grand bonheur pour le plus grand nombre, et donc une morale de la suppression ou de l'allègement de la souffrance et de la douleur. Au fond, l'utilitarisme serait une morale sans peine. Comme on apprend le chinois sans peine, il y aura une morale sans peine, ce qui est évidemment une illusion totale, puisqu'aux yeux de Nietzsche, comme vous savez, il n'y a pas de création sans passer par la discipline. Bon, une morale pour tous qui serait une morale qui supprimerait d'une certaine façon la souffrance ou qui la réduirait à presque rien. Ce qu'il faut viser, c'est le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Morale de l'hédonisme qui est moins recherche du plaisir que fuite de la douleur. Et ce qui est intéressant, c'est de remarquer que Hannah Arendt, dans La condition de l'homme moderne, j'ai pas le temps de le lire, retrouve, sans citer d'ailleurs Nietzsche, vous pouvez regarder dans la traduction ici aux pages 348-49, retrouve cette idée que, au fond, la morale utilitaire est moins un hédonisme, une recherche du plaisir, qu'un refus de la souffrance, une élimination de la souffrance. Or, paragraphe 225, hédonisme, donc je laisse Hannah Arendt de côté, vous pouvez aller voir ce qu'elle dit, qui est assez intéressant. Hédonisme, pessimisme, utilitarisme, démonisme, toutes ces philosophies qui mesurent la valeur des choses d'après le plaisir et la douleur, c'est-à-dire d'après des phénomènes accessoires, sont des philosophies superficielles et des naïvetés que tout homme doué de force créatrice et d'une conscience d'artiste ne peut considérer qu'avec ironie et pitié. Notre pitié, alors c'est intéressant parce que Nietzsche ne récuse pas toute forme de pitié. Notre pitié est plus haute et regarde plus loin. Elle voit comment l'homme se rapetisse, comment vous le rapetissez, et il est des moments où c'est précisément votre pitié que nous considérons avec une angoisse inexprimable, où nous nous défendons contre cette pitié-là, où nous trouvons votre sérieux plus dangereux que n'importe quelle frivolité. Vous voulez abolir la souffrance dans la mesure du possible, et il n'y a pas de plus folle ambition. Alors ça paraît évidemment un texte scandaleux, parce que on pourrait dire que toute la médecine aujourd'hui vise à diminuer la souffrance. Mais je ne crois pas que ce soit ce que Nietzsche veuille dire. C'est que pour lui, la souffrance, et pensons à sa maladie, elle fait partie intrinsèque de la condition humaine. Elle est ce qui nous approfondit. Vouloir la supprimer, c'est vouloir des êtres de béatitude plate. Des êtres sans épaisseur. Et puis, comme je le disais l'autre jour, et on le voit dans certaines lignes utilitaristes, on en vient vite à dire que pour supprimer la souffrance, il faut supprimer le souffrant. Le souffrant est toujours de trop. Hein, je citais l'autre jour les textes de Peter Singer, qui dit ça tout à fait clairement. C'est-à-dire que les souffrants, les malades, les vieux, les handicapés, ils font diminuer le bonheur, le plus grand bonheur pour tous. Donc dans la balance entre arithmétique des plaisirs et des peines, ils font pencher les choses du côté des peines. Donc ils sont du mauvais côté de la barrière. Voilà, je crois que c'est ça que Nietzsche veut dire quand il dit que l'utilitarisme est une morale d'esclave, parce que c'est une morale où l'individu ne peut pas supporter l'existence, où il cherche à diminuer justement ce qui en fait finalement la valeur, c'est d'être capable aussi de souffrir. D'où la distinction entre gut und böse. Alors ça c'est aussi intéressant et un peu subtil, difficile. Bon et méchant. Il y a une distinction des deux côtés. Le noble distingue aussi bon et mauvais. L'esclave distingue le bon et le méchant. Le méchant, c'est celui qui m'en veut. C'est celui que je juge contraire à mes intérêts et à moi. En lui-même, il n'est pas nécessairement méchant. C'est-à-dire, le piètre artiste, qui est incapable de créer, va estimer que Michel-Ange ou Cézanne sont des méchants, parce que justement ils sont créateurs, mais c'est parce que lui ne l'est pas. C'est lui qui projette sur l'autre. Michel-Ange, il fait ses statues, il s'en fout de celui qui est incapable de les créer. Il crée. C'est le pauvre type qui voit dans Michel-Ange un méchant qui le nargue. Donc c'est son regard qui rend l'autre mauvais. Donc c'est du côté de l'esclave que la distinction bon-méchant domine. L'esclave ne peut pas supporter en effet la puissance, la créativité de l'autre qu'il va estimer comme une menace pour lui. Et donc il va dévaloriser, l'esclave dévalorise la puissance de l'autre. Voilà, pour le faible esclave, le méchant provoque la crainte, on a peur de lui, il est une menace contre moi, alors que celui qui crée, et il ne crée pas contre. Mais l'esclave le juge comme une menace pour lui, alors que pour le noble, c'est le bon qui provoque la crainte. C'est celui qui est aussi bon que vous dans la création qui provoque la crainte. Michel-Ange a peur d'être dépassé éventuellement par un plus malin que lui, un plus créateur que lui. Bon, on a deux lectures antinomiques finalement de la même réalité. Et où nous trouvons l'antinomie des valeurs. Il y a toujours un bien et un mal. Et vous voyez, Nietzsche ne prétend pas aller par-delà bien et mal. Mais par-delà une distinction figée, on a cette double distinction antinomique, le bon et le mauvais, morale des nobles, et le bon et le méchant, morale des esclaves. Donc d'un côté, la puissance, la créativité est jugée comme quelque chose de bon, de sain, et de l'autre, elle est jugée comme quelque chose de négatif. Voilà. Et alors, dernier trait, et puis nous arrêterons là si vous voulez bien, dernier trait de l'esclave, c'est son aspiration à la liberté. N'est-ce pas la fin de ce paragraphe? Dernière différence essentielle, le Verlangen, l'aspiration à la liberté, l'instinct du bonheur et le raffinement du sens de la liberté appartiennent nécessairement à la mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben justement, cette aspiration à la vérité, elle s'oppose à la vénération, qui était le troisième trait de la morale noble. Seul celui qui n'est pas libre aspire à la liberté. Et l'esclave est celui qui aspire à la liberté parce que précisément il est incapable de liberté. Il est incapable, parce que pour Nietzsche, liberté et création s'équivalent, il n'est pas capable de création. D'où l'idée qu'il faudrait se libérer pour devenir libre, sortir de l'exploitation. Et, n'est-ce pas? Et à nouveau, s'il faut se libérer, c'est parce qu'on parce qu'on juge que l'existence est un long esclavage. La libération, c'est une aspiration à la liberté, c'est-à-dire à sortir d'une situation d'exploitation et d'esclavage. On fait précisément de l'émancipation la valeur du faible. C'est le faible qui fait cela une valeur. Alors que précisément, aux yeux de Nietzsche, la véritable libération, ce serait de se désensorceler de l'idée qui l'obsède, à savoir de l'aspiration à la liberté pour être vraiment libre. Parce que, aux yeux de Nietzsche, la véritable liberté se manifeste dans l'acte par lequel on se crée. Au fond, la liberté n'a pas besoin d'acte extérieur qui mesurerait son aptitude à être libre. Alors, je voudrais simplement lire le paragraphe 287. Qu'est-ce qui est fornem? Qu'est-ce qui est distingué? Quel sens le mot fornem a-t-il encore aujourd'hui? Nietzsche voit bien que le fornem, c'est évidemment un mot qui passe mal. Où se trahit, à quoi se reconnaît l'homme? Fornem, l'homme distingué, sous le ciel lourd et menaçant de cette naissante suprématie du vulgaire, ce ciel qui rend toute chose opaque comme du plomb. Ce ne sont pas ses actes qui le désignent. Les actes sont toujours douteux, toujours insondables. Ce ne sont pas non plus ses œuvres. On trouve aujourd'hui bien des artistes et des savants dont les œuvres trahissent une profonde aspiration, Verlangen, aux valeurs aristocratiques. Mais c'est précisément cette aspiration qui est radicalement différente des besoins de l'âme aristocratique et qui constitue le signe éloquent et dangereux de l'absence d'une telle âme. Ici, ce ne sont pas les œuvres qui décident et fixent le rang, mais la foi, Glauben. Pour reprendre une vieille formule religieuse, c'est la foi qui sauve. En un sens nouveau et plus profond. je ne sais quelle certitude intime inhérente à l'âme fornem, quelque chose qu'on ne peut chercher, ni trouver, ni peut-être perdre, l'âme aristocratique fornem a le respect de soi. Le respect de soi. Elle n'aspire pas à la liberté, elle se la donne en créant. Alors, je vous renvoie aussi au texte 263. Que je ne vais pas lire, mais je vous invite à le faire. Il existe un instinct du rang, ordnung, de rang, la hiérarchie, qui est plus que tout l'indice d'un rang élevé. Il existe un goût du respect de ces nuances qui laisse entrevoir une origine et des habitudes fornem distinguées. Par contre, aujourd'hui, le monde moderne ne peut pas supporter la différence. Et en français, au milieu du texte, vous avez « différence engendre haine ».« Différence engendre haine ». La vulgarité de maintes natures jaillit comme une eau malpropre en face d'un vase sacré, d'un objet précieux conservé dans un écrin, d'un livre marqué du signe d'une grande destinée. C'est le sacré, quand même, un peu derrière tout ça. Ça nous conduit à l'idée du divin. Inversement, il existe un mutisme, soudain un trouble des yeux, une paralysie des mouvements qui atteste que l'âme se sent dans la proximité de ce qu'il y a de plus vénérable. La manière dont s'est maintenu jusqu'à nos jours dans l'ensemble le respect de la Bible constitue peut-être le meilleur exemple de discipline et d'affinement des mœurs dont l'Europe soit redevable au christianisme. Des livres de cette profondeur, dépositaires d'une signification ultime, ont besoin d'être protégés par la tyrannie d'une autorité extérieure. C'est le catholicisme, n'est-ce pas ? Et Luther, lisez les textes féroces dans le Gai Savoir, il met la Bible à la portée des mains sales. Mais non, l'Église catholique a le sens de la hiérarchie que la Bible, c'est un texte sacré, n'importe qui ne va pas foutre ses mains là-dedans. Il faut qu'une tradition vous initie. Ouais, c'est un luthérien qui parle, hein, c'est amusant. Cette durée de plusieurs qui est indispensable pour épuiser leur sens et comprendre jusqu'au bout. On atteint un grand résultat quand on a réussi à inculquer la grande masse aux esprits creux et aux étourdis de toutes sortes qui n'ont pas le droit de toucher à tout. Qu'il existe des expériences sacrées devant lesquelles ils ont à retirer leurs chaussures et à surveiller leurs mains. C'est là à peu près le plus haut degré d'humanité qu'ils puissent atteindre. Inversement, il n'est peut-être rien de plus répugnant chez les gens dits cultivés, les fidèles des idées modernes, que le manque de pudeur, l'insolente familiarité avec laquelle ils touchent tout, lèchent tout, palpent tout. Par le tutoiement général, on ne se connaît pas de 30 secondes. Plus de différence engendre haine. Et puis cette phrase curieuse, il est possible qu'on trouve aujourd'hui dans le peuple, dans le bas peuple, et notamment chez les paysans, relativement plus de distinction, Fornemheit, dans le goût et plus de tact dans le respect, qu'au sein de ce demi-monde de l'esprit qui lie les journaux, les gens cultivés. Alors où chercher la noblesse ? Pas au château de Versailles. Chez les paysans. Alors, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience, moi je l'ai eue, de vieux paysans, pas, je ne parle pas du paysan industrialisé d'aujourd'hui, mais le vieux paysan d'Auvergne, je ne sais pas où, qui avait un sens du respect de ses troupeaux, de sa nature, de lui-même, de voilà, et qui était, aux yeux de Nietzsche, un aristocrate, plutôt que le germanocratin à moitié cultivé. Voilà. Pardon ? 263. 263. Ah, excusez-moi, mais